OK, oui, 10h02, bienvenue dans le Point de Max à Boulevard 102-1-418-971-1021, le numéro pour me rejoindre en studio. C'est une tabarouette de belle journée qu'on a à Québec avec un 16 degrés présentement. On attend 23 au maximum avec 40% de possibilité d'averse. Mais hier aussi, on en prévoyait un petit peu, puis finalement, on s'en est super bien sorti. Fait qu'espérons la même chose pour aujourd'hui. Ce soir et cette nuit, c'est 9 degrés avec 40% de possibilité d'averse, mais demain, c'est une autre belle journée qui nous attend. 17 généralement ensoleillé. Samedi, dimanche, super beau aussi, le gros soleil avec 17 et 19. Les nuits, par exemple, ça commence à être frette. Il y a cette particularité-là au Québec en septembre où on peut avoir des températures qui vont jusqu'à 29 avec l'humidex pendant la journée comme hier. Puis après ça, la nuit, là, c'était pas si peu. Je pense que ça descendait à 13-14 dans la dernière nuit. Mais dans la nuit de vendredi à samedi, ça va descendre jusqu'à un petit 2 degrés. Fait que après voir si peut-être vous vous rendez en ville et que vous comptez revenir aux petites heures du matin, le petit 2 degrés, ben va peut-être falloir prévoir une petite laine. Dans les gros dossiers, hier, je sais pas qui s'est occupé de ça sur le compte Facebook de Boulevard 101, mais je vais vous lire la publication. Vraiment pas trouvé ça cool. Si ce post atteint un like, Max n'a pas le droit de parler de la nouvelle tournée de MGK en ondes. D'après moi, je soupçonne que c'est peut-être Audrey Pinchot, quoique ça pourrait être quelques personnes qui sont écœurées de m'entendre parler de Machine Gun Kelly, qui a annoncé hier une tournée de laquelle je n'ai pas le droit de vous parler, tournée dont je ne vous parlerai pas, qui va s'arrêter au Centre Bell le 10 décembre prochain, avec une première partie dont je ne vous parlerai pas du nom de Julia Wolfe. Fait que j'en dirai pas plus pour ne pas m'attirer les foudres de ceux qui sont écœurés de m'entendre parler de MGK, mais j'ai dit ce que j'ai dit. Par contre, il y a personne qui m'a dit que j'avais pas le droit de parler des nouvelles tunes, des vulgaires machins qui sont sortis ce matin. Terminez le fun. Et l'autre, j'imagine, c'est en latin ou quelque chose de même, là. Om Mani Padme Hum. Fait que ça sonne vulgaire machin, puis ça sonne bien en tabarouette. Ça, c'est terminé le fun. L'album Contempler l'abîme qui va paraître le 14 novembre prochain. Puis il y a deux shows qui ont été annoncés, un du côté de Montréal et un à Québec. Celui à Québec, ce sera le 21 mars prochain du côté de l'Impérial. Celle-là que vous entendez, terminer le fun, c'est une grosse toune de 6 minutes là, où on passe dans ben des moods. L'autre toune est plus, entre guillemets, format radio, là, plus court. C'est un 2 minutes 49, celle qui s'appelle Om Mani Padme Hum. Qu'est-ce que vous en pensez? 88-971-1021, deux nouveaux extraits pour les vulgaires machins qui vont nous sortir un album le 14 novembre prochain, qui vont s'arrêter à l'Impérial de Québec le 21 mars 2000. 26. Dans l'actualité, il y a quelques trucs ce matin, des trucs plus lourds, là, entre autres un accident qui a causé des problèmes de circulation. C'est vers 6h10 ce matin que les policiers du SPVQ ont été appelés à intervenir du côté du boulevard Pierre-Bertrand. Collision frontale entre un véhicule et un camion lourd. Le conducteur du véhicule, un homme de 47 ans, qui a été transporté à l'hôpital. On parle de blessures sérieuses. Si on a des mises à jour, je vous les ferai. Pour ce qui est du conducteur du camion, un homme de 73 ans, ben, il a été évalué sur place par les services ambulanciers pour un choc nerveux. Et pourquoi ça a causé des problèmes de circulation, c'est que le boulevard Pierre-Bertrand a été fermé là, dans les deux directions. Jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours le cas. N'hésitez pas, 88-971-1021, si vous avez des informations par rapport à ça et aussi par rapport à n'importe quoi qui pourrait bien se passer sur la route. Je suis toujours bien preneur. Sinon, hier soir, du côté de Saint-Jean-Chrysostome, il y a un véhicule qui a été incendié. On parle d'un incendie criminel dans un champ carrément de Saint-Jean-Chrysostome. C'est vers 20h15 qu'il y a un appel qui a été logé au 911. Ça s'est passé du côté du chemin Bel Air Ouest. Quand les pompiers sont arrivés, le véhicule qui était déjà quand même bien pogné en flamme. On a travaillé donc pour protéger un boisé qui était à proximité. Là, c'était surtout le but d'éviter que ce boisé-là prenne en feu aussi. Comme je vous disais, ce serait de nature criminelle. Selon les sources du Journal de Québec, le véhicule qui n'était pas équipé d'une plaque d'immatriculation, on aurait utilisé un accélérant pour le faire brûler plus rapidement. Sans surprise, c'est une perte totale. Le véhicule qui avait complètement fondu, semble-t-il. Là, on essaie de trouver des indices, comprendre un peu ce qui s'était passé. Il n'y a pas de suspect qui a été appréhendé du côté du service de police de la ville de Lévis. Là, c'est ce qu'on nous dit pour l'instant. Tramway, le contrat signé en 2023 entre Alstom et la Ville de Québec qui passe aux mains de la CDPQ Infra. C'est Radio-Canada qui a appris que l'entreprise a donné son feu vert au transfert de l'entente au début du mois. La décision qui doit être rendue publique aujourd'hui, on s'en reparlera avec plus de détails un petit peu plus tard. Sinon, la nouvelle présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau, qui demande la collaboration de ses collègues ministres dans un effort d'efficacité de l'État. Un début concret qui serait de réduire la taille de l'État en diminuant le nombre d'effectifs au sein de la fonction publique sans compromettre le service direct aux citoyens. Dans le fond, exactement ce qu'avait promis François Legault quand il a été élu avant de faire complètement le contraire. Radio-Canada qui a obtenu une lettre signée par Mme Duranceau titrée « Demande de collaboration pleine et entière afin de réduire la bureaucratie et rendre l'État plus efficace ». Fait que là, on va voir si ça va se faire pour vrai. Commission Galant, le témoignage de l'ancien vice-président à l'expérience numérique de la SAC, Carl Malenfant, qui se poursuit. Hier, ça a retenu l'attention pas mal, entre autres avec l'extrait que je vous fait jouer à l'instant. Essayez de ne pas sourire, mais il y a un peu de rire jaune là-dedans aussi.
On l'a établi tout à l'heure, là. Vous l'appelez Mado, c'est bien ça?
Oui, parce que je connais Mado depuis 20 ans peut-être déjà. Là. Je la connais depuis toujours. Okay. Elle aura toujours été pour moi un coach, mais c'est une amie professionnelle. Et oui, mes amis professionnels, je peux leur faire la bise quand je les vois. Je ne fais pas juste leur donner la main. Et oui, des amis professionnels, je peux avoir du plaisir avec eux. Puis un pyjama party, ça réfère à tous ces go-live ou tous ces projets où on travaille de nuit. S'il y aurait eu d'autres, Mado et Loulou, qui auraient travaillé avec moi, je n'aurais pas eu de problème s'ils avaient la compétence des critères.
Le souper à quatre, la familiarité qui découle du message, Monsieur Malenfant, ça ne contredit pas là, ce que vous avez dit et ce que Madeleine Chagnon a mentionné quant à sa relation avec vous.
Ce mélange de familiarité, mais si vous allez voir mes 1000 équipiers de la SAC, si vous allez voir mes directeurs généraux, j'ai la même proximité que j'ai avec Madeleine Chagnon maintenant, puisque j'ai passé 11 ans avec eux. Là.
Fait que quand on parle de Mado, c'est un contrat de 1,2 million qui a été attribué à une certaine Madeleine Chagnon, une ancienne collègue de Malenfant chez Hydro-Québec. Il y avait eu, semble-t-il, 3 propositions là, à l'appel d'offres, mais on nous dit que Mme Chagnon, qu'on appelle aussi Mado, c'est la seule qui répondait aux critères, mais comme vous l'avez comme entendu, ce qui retient l'attention, c'est qu'elle semblait assez proche de Malenfant. Fait que là, il y en a qui se demandent, bon, c'était-tu une genre de magouille que l'appel d'offres avait été fait spécifiquement pour cette personne-là? Puis c'est une des questions qu'on se pose. Situation semblable pour un appel d'offres remporté en 2015 par une certaine Louise Savoie, que vous connaissez mieux sous le nom de Loulou maintenant, qui a rejoint en passant Loulou quelques années plus tard la firme LGS, firme qui a touché le contrat de 458 millions pour réaliser sa clique. On se rend compte qu'il y a comme bien des liens à faire entre différentes personnes qui se donnent des petits surnoms et qui font des parties pyjama. Mais ça a l'air que des parties pyjama, c'est juste le nom qu'ils donnaient à des rencontres qui se faisaient tard la nuit parce qu'ils travaillaient bien fort. Capitale de Québec au sport, victoire de 4-2 de nos capitales grâce à un circuit de 3 points de Justin Gideon. En fin de 8e manche, Québec a donc créé l'égalité 1-1 dans la série face aux Boomers de Schaumburg. Et c'était d'ailleurs le dernier match de la saison à Québec parce que la série se transporte maintenant du côté de Schaumburg. Série, je vous rappelle, 3-5. Toujours au baseball, les Blue Jays de Toronto qui ont perdu 2-1 hier face aux Rays de Tampa. Autre duel entre les deux équipes à 13h10 aujourd'hui. Et dans la NFL, le football du jeudi soir, A priori, ça s'enligne pour être une volée puis un match qui sera pas serré pantoute, mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise dans le merveilleux monde de la NFL, les Dolphins de Miami qui visitent les Bills du côté de Buffalo. Max. 10h13 minutes dans le point de Max. Vous êtes là au 418-971-1021 par texto. Christian qui disait, Max, tu peux parler de ceux qui font la première partie de MGK au Sandbell. Ça, c'est pas interdit. Philippe qui dit, joue-nous du MGK, please. Je pourrais en jouer sans en parler. Je pense que ça n'irait pas à l'encontre du post Facebook. Je t'aime, Max. Ah, des textos comme ça, toujours le fun. 88-971-1021, je vous le rappelle. C'est le fun d'avoir de la visite en studio. C'est le fun de vous avoir au 88-971-1021 par texto, mais quand on a de la visite en studio, c'est toujours bien le fun aussi. Et c'est de la belle visite pour parler d'une bonne cause, d'une belle soirée qui va avoir lieu ici même au 815 Le Bourgneuf le 2 octobre prochain. Ça va se passer dans la passerelle Le Bourgneuf avec nul autre que le chef Danny Saint-Pierre. C'est Sarah Pilote-Henry, directrice générale de la Fondation Plein Potentiel, qui est là. Sarah, bonjour.
Bonjour, Max.
Ça va bien?
Ça va bien et merci tellement de me recevoir ce matin et de me donner l'opportunité de pouvoir parler de cette magnifique soirée, mais surtout de cette magnifique fondation qu'est la Fondation Plein Potentiel.
Ben justement, puis la soirée, on va en parler, on va inviter les auditeurs, mais je pense que la bonne façon de commencer, c'est de parler de la fondation en tant que telle. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fondation-là? Pourquoi elle est importante?
Bien, la Fondation Plein Potentiel, ça existe depuis 30 ans. C'est une des 12 fondations du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Et ce qu'on fait, c'est qu'on soutient les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, ainsi que leur famille. Fait que concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on va financer du répit pour les parents, des projets innovants et du soutien direct pour améliorer la qualité de vie. Je vous donne un exemple. Les personnes qu'on aide, c'est pas des gens qui sont très fortunés, vous comprendrez. Nous, on donne jusqu'à 500 $ par personne par année. Ça, c'est pour les dons individuels. Puis, tu sais, ça va être la mère monoparentale qui a 3 enfants. Il y en a un qui a un diagnostic. Les 2 autres, il y a des soupçons de diagnostic. Elle est épuisée. Nous, avec 500 $ là, on est capable de donner une semaine de camp, que ce soit à Cité Joie ou à Laurent les Merveilles. Donc, c'est une semaine de répit dans des camps spécialisés. Ensuite de ça, ça va être une session de cours de théâtre dans un organisme qui s'appelle l'Entracte, qui est spécialisé en arts vivants, donc théâtre, danse, pour des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou qui sont autistes. C'est un cours de natation accompagné et adapté pour un jeune qui va apprendre à nager. Puis c'est pas juste... Là, on parle beaucoup de jeunes, mais ça va également plus loin que ça. On ne discrimine pas sur l'âge. Il y a un cas qui m'a beaucoup touchée. C'est un monsieur de 64 ans. Puis, il a une déficience intellectuelle. Okay. Puis, l'an dernier, il a perdu son meilleur ami et son seul ami des 40 dernières années. Mmh. Il habite chez son père parce que leurs parents sont décédés. Pas chez son père, pardon, chez son frère.
Son frère,
okay. Ouais, et parce que leurs parents sont décédés. Et son frère nous avait écrit « Merci tellement ». Parce que, tu sais, de donner à mon frère, parce que la seule chose qui lui redonne le sourire depuis le décès de son ami, c'est de passer une fin de semaine dans un des organismes comme Laura les Merveilles ou comme, Cité Joie, les Petites Lucioles, etc. Donc, on aide du vrai monde, puis on fait du bien à des gens qui en ont réellement besoin.
Puis il y en a beaucoup aussi. Tu sais, je pense que n'importe qui dans son entourage plus près ou éloigné connaît quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce que vous offrez.
Tu as 100% raison. Puis les demandes vont en augmentant. On le sait que le coût de la vie augmente. Mm-hmm. Et juste l'an dernier, on a reçu 275 demandes individuelles. Cette année, on s'enligne pour dépasser le 300. Fait que c'est de plus en plus de personnes qui ont ces besoins financiers-là pour pouvoir s'accomplir. Il y a du matériel aussi qu'on va fournir, qu'on va permettre d'acheter pour faire des coins sensoriels. Puis, il y a des projets majeurs aussi qu'on finance dans des milieux publics qui sont associés, bon, au CIUSSS, oui, que ce soit des résidences, tu sais, des résidences ou des personnes, des cas un petit peu plus lourds vont habiter en permanence, mais des écoles aussi, des écoles publiques qui ont des classes spécialisées. Donc, faire des salles sensorielles, des salles blanches, des trucs comme ça qui viennent vraiment aider lorsqu'une personne autiste peut avoir une surcharge de tu sais, une surcharge de stimuli, puis avoir besoin juste de relaxer.
Est-ce qu'on en parle de plus en plus, puis dans un certain sens, c'est une bonne chose, parce que oui, il y a peut-être plus de cas ou de gens qui sont dans le besoin d'avoir besoin de vos services, mais en bout de ligne, c'est une bonne chose qu'on parle davantage de vous puis de ce que vous avez à offrir?
Ben oui, on a besoin d'être connu, un, parce que on veut être connu auprès des personnes, là, je vais dire les usagers du CIUSSS. Les usagers du CIUSSS de la Capitale-Nationale, on s'entend, ça couvre tout le monde qui va avoir une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre autiste sur le territoire. Donc ça va de Charlevoix jusqu'à Portneuf.
OK.
On veut que ces personnes-là soient au courant, qu'ils en parlent avec leurs intervenants quand ils sont suivis, les familles principalement, pour pouvoir nous faire des demandes. Mais je veux également être en mesure de pouvoir parler à la population en général pour les encourager à nous faire des dons. Nous, on ne fonctionne que par les dons. Donc, 100% de notre financement vient de dons d'entreprises ou de dons d'individus qui sont touchés par la cause puis qui se disent « moi, j'ai envie de donner ».
Puis pour ces gens-là, c'est ce qui nous mène à parler de la belle soirée du 2 octobre prochain, une soirée culinaire haut de gamme avec le chef Danny Saint-Pierre. Je l'ai dit, c'est ici que ça va se passer, dans le building au 815 boulevard Le Bourgneuf. Qu'est-ce qui va se passer exactement?
Alors, une magnifique soirée. Moi, je suis quelqu'un qui aime la bouffe et je connais Danny d'une autre vie. Et Danny m'a dit « Sarah, moi, je vais t'aider ». Puis j'ai dit, mais ça, parfait. Alors, Danny, déjà, va nous offrir deux bouchées, incluant sa fameuse pizza, sa pan pizza, qu'il a chez Pan American à Montréal.
Et, donne faim, là, j'ai pas déjeuné encore.
Et si tu goûtes à cette pizza-là, tu vas voir, tu vas en rêver pour le restant de tes jours. Puis également, on va avoir plusieurs autres restaurants qui se sont commis à nous offrir des bouchées.
Okay.
C'est là, il y a un élan de solidarité avec les restaurateurs Québec. Ils viennent nous donner chacun 200 bouchées parce qu'on attend 200 personnes. Et alors, il va y avoir plein de restaurants qui vont être représentés. Donc ça, on a très hâte de pouvoir présenter ça. Et ensuite de ça, ben il va y avoir un encan virtuel. Donc, les personnes, même celles qui ne sont pas là, vont pouvoir participer. On a des super beaux prix. Si jamais il y a des gens qui nous entendent présentement et qui se disent « Hey, moi, j'aurais un beau prix à donner à cet encan-là », ben on est très preneurs. En ce moment, on a des foursomes de golf au Golf de la Faune, au Golf La Tempête aussi. On a des nuitées, une nuitée à l'hôtel Le Germain, une à l'hôtel Delta. On a des toiles d'artistes. On a...
Il y a du stock.
On a des certificats.
Puis vous en prenez encore, c'est
puis
ça
on
que
en,
tu nous dis?
On en prend toujours. Moi, je fonctionne selon le principe, vous avez de l'argent, on a des poches. Également, on a Air Canada qui nous a donné un certificat cadeau pour deux personnes. Donc, un vol pour deux personnes partout en Amérique du Nord, dans les Antilles, et ça inclut Hawaï aussi. C'est une valeur de 3 800 $.
OK.
Donc, on va faire un tirage sur place. Donc, il y aura des billets à vendre sur place. Puis, on a également l'aéroport qui nous a offert le stationnement gratuit pendant une semaine. Donc, ça va venir avec une semaine de stationnement à l'aéroport.
Cool. Fait que ça, c'est pour autant ceux qui seront sur place que ceux qui pourront pas être là, qui y seront pas.
L'encan, oui.
L'encan, exact.
Le billet, faut être sur place.
Exact. Donc, pour ce qui est du billet, comment on se le procure pour ceux qui veulent aller goûter à la pizza, là?
Bon, alors, pour ce qui est du billet, je sais que sur le site de Boulevard, il y a si ce n'est pas déjà fait, ça va l'être aujourd'hui et pour les deux prochaines semaines, il va y avoir le lien pour acheter des billets. Donc, un billet, c'est 250 $. Il y a 190 $ de reçus de dons de charité dans le prix de ce billet-là. Il y a également des tables corporatives. Donc, ça, c'est des tables cocktail pour 4 personnes. Ça vient avec une bouteille de bulle parce qu'on est festif. Mm. Et ça vient également avec la visibilité.
Là, tu m'as donné faim, puis là, tu me donnes soif, bon. Colin.
Mais là, Max, il va falloir que tu viennes et que tu prennes ton billet.
Pas le choix.
Donc, c'est ça. Puis, je sais que 250 $ des fois, ça peut être un peu dispendieux. C'est pas tout le monde qui a les moyens ou c'est pas tout le monde non plus qui est prêt, qui va être là le 2 octobre. Mais sur la page pour acheter les billets, on peut également juste faire un don. Donc, si c'est une cause qui vous parle, nous, on va être très heureux de recevoir les dons là, via cette page-là.
Mais c'est ça que j'allais te demander. Pour ceux qui peuvent pas être là, bon, on a parlé de l'encan, ça va pouvoir se faire en ligne. Les différentes façons d'aider la Fondation Plein Potentiel, c'est lesquelles?
Bien, c'est certain que faire des dons récurrents, ça, notre page de dons le permet également. Donc, on peut aller sur le site de la Fondation qui est fondationpleinpotentiel.com.
C'est simple de même.
Simple de même. Et tant sur le site, il y a, quand on entre sur le site, il y a une page tout de suite qui nous amène vers l'achat des billets, mais également sous l'onglet « Donner », on peut participer à la campagne des 30 ans, parce que comme je mentionnais tout à l'heure, ça fait 30 ans qu'on existe. Donc, on peut donner via ces deux pages-là également.
Donc, on vous invite le 2 octobre prochain, ici même dans le building au 815 boulevard Le Bourgneuf, avec le chef Danny Saint-Pierre, un événement qui donne faim. En tout cas, d'en parler, ça donne faim, donne soif aussi, les bulles, on dit jamais. Quoique, à 10h24 le matin, il y en a qui vont trouver ça spécial. Mais
avec un petit jus d'orange.
Ben, il y a ça, puis moi, je suis levé depuis 3h40. Là, j'ai le droit d'avoir soif pour des bulles à 10h30. Sarah Pilote-Henri, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Retour de la pause, on reçoit Étienne Grandmont. Il est député de Québec solidaire dans Taschereau. Il veut aussi devenir co-porte-parole du parti, pour qui ça va pas super bien dans les sondages. On va en jaser avec lui. Vous écoutez Le Point de Max à Boulevard. Il est 10h25. Le Point de Max. 10h33 minutes dans Le Point de Max. S'il y a quoi que ce soit sur les routes, 418-971-1021 par texto, n'hésitez pas. D'ailleurs, d'après moi, il se passe de quoi sur la 20 direction ouest parce qu'il y a un ralentissement qui est assez inhabituel. Là. 20 direction ouest, pas vers les ponts. Ça serait très habituel. Puis limite, je vous en parlerai même pas tellement c'est habituel. Mais là, on est vraiment 20 ouest passé les ponts ou vers la route Lagueux dans les alentours, dis-je mal, de la route Lagueux. Ça me semble assez problématique. Et du côté du Québec 5-1, on ne signale rien pour l'instant. Fait que vous êtes mes yeux sur la route. N'hésitez pas par texto 88-971-102. Puis n'hésitez pas non plus si vous avez des questions pour notre prochain invité. Il est député de Taschereau, maintenant officiellement candidat dans la course au co-porte-parole de Québec solidaire. Étienne Grandmont, bonjour.
Salut Max, merci de me recevoir.
Fait plaisir, ça va bien, grosse semaine.
Oui, les semaines sont grosses. Depuis le retour des vacances, là, je me déplace un peu partout. J'étais à Rouyn, dans Laurentides, dans la Naudière.
Mon coin, c'est Roy, moi j'ai une Val-d'Or.
OK. Fait que j'allais faire un petit tour là-bas. Trois-Rivières, là, je m'en vais à Rimouski puis Gaspé. Il va y avoir d'autres sorties de prévues aussi. Bon, tu sais, c'est vraiment ça. L'important, c'est de se promener un peu partout sur le Québec et à la rencontre des gens, des sympathisants solidaires, des gens qui s'intéressent à la politique. Puis pour vrai, je trouve ça vraiment... Tu sais, c'est fatigant, là, mais c'est vraiment enrichissant. C'est fun de voir qu'est-ce que les gens veulent puis comment ils se sentent négligés par les partis politiques en général. Comment ils sentent aussi qu'il y aurait... comment ils clament qu'ils voudraient avoir plus d'autonomie. Fait que moi, je trouve ça super intéressant.
Ce travail-là de voyager à travers le Québec dans les régions, vous le faites beaucoup pour, j'imagine, aller sonder les gens pour le poste de co-porte-parole de Québec solidaire, de voir un peu comment on se sent dans les régions?
Bien, il y a deux objectifs. Il y a celui que tu nommes, effectivement, là, aller m'inspirer, aller me laisser contaminer par les gens là-bas, tu sais, parce que la réalité de ce que les gens dans ton coin, à Val-d'Or, puis Rouyn, est absolument pas la même que les gens à Québec, en banlieue de Montréal, en Terrebonne. fun. Il y a ça, c'est clair. Puis l'autre chose, c'est me faire connaître aussi. Là. Ouais. On se le cachera pas, je suis dans une course. Pour une première fois, Québec solidaire, à Québec solidaire, il va avoir la possibilité pour tous les membres de voter parce que les lois au DGEQ, le directeur général des élections du Québec, ont changé. Puis ils reconnaissent, dans le fond, notre statut de co-porte-parole comme quelque chose qui peut attirer du financement, puis dans lequel aussi on peut mettre en action, donc pour le financement, mais aussi pour le vote, l'ensemble de nos membres. Donc, c'est vraiment beaucoup de membres, beaucoup de monde à rencontrer. Donc, moi, c'est ça, je veux me faire connaître.
Sentez-vous que vous partez peut-être avec un déficit de popularité par rapport à Sol Zanetti, qui pour moi est votre principal adversaire là-dedans? Sentez-vous qu'il est plus connu de par le rôle qu'il occupe en politique québécoise depuis un bon moment déjà?
Ben oui, Sol a été chef d'Option nationale, exact. Il roule sa bosse depuis longtemps, il a été au cœur de la fusion entre Option nationale et Québec solidaire, c'est son deuxième mandat à l'Assemblée nationale, donc évidemment, je veux dire, quand je regarde ça froidement, j'ai un déficit de notoriété par rapport à lui. Par contre, moi, ce que je pense, c'est que notoriété, ça peut surmonter, puis c'est ce que je fais de façon très active, puis de la bonne façon aussi, je pense. Puis, je pense que j'ai quelque chose à offrir aussi, donc je ne suis pas un politicien de formation, moi, j'arrive des milieux communautaires, dans la lutte dans les luttes importantes sur l'environnement, sur la justice sociale, puis j'ai envie d'amener ce genre de fraîcheur-là aussi à Québec solidaire. Mais c'est sûr que pour l'instant, j'ai pas la notoriété de Gabriel Nadeau-Dubois, Manon Massé, mais que c'est vers ça que je tends. En tout cas, c'est l'objectif que je veux atteindre un jour parce que c'est nécessaire, effectivement, en politique. Tu as besoin d'être connu. Puis, généralement, aussi, si tu peux être aimé en plus, c'est un plus, évidemment. Là.
Vous dites vent de fraîcheur. Ouais. Qu'est-ce que vous allez amener comme vent de fraîcheur chez Québec solidaire qui en a besoin? Puis, on reparlera tantôt des derniers résultats de sondage où, on va se le dire, là, c'est pas chic pour QS. Certains parlent d'une mort à venir aux prochaines élections. Mais c'est ça, votre vent de fraîcheur, qu'est-ce que vous allez amener de différent qu'il n'y a pas chez QS en ce moment?
Oui, on annonce souvent la mort de partis politiques. Ouais, regardez PQ maintenant. Fait que, bon, ça peut se jaser. Là. Non, mais moi, j'y crois vraiment au Parti Québec solidaire. Je crois vraiment aux valeurs qu'on promeut. Je suis vraiment persuadé aussi que dans un monde où la droite monte, mais pas à peu près, là, je veux dire, on regarde aux États-Unis, on regarde dans l'Ouest canadien,
mais ça, c'est déjà dans le sang de Québec solidaire de se battre contre ça. Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau? Parce qu'il y a besoin de quelque chose de nouveau.
Non, mais t'as raison, mais tu sais, je pense que, tu sais, mettons depuis un an et demi, on va le dire franchement, là, on a été un peu, disons, dans des questionnements puis dans des discussions assez intenses chez Québec solidaire. Puis c'est correct, on est un parti très démocratique aussi, là, ce qui fait, je pense, notre force. Maintenant, je pense qu'il faut travailler à bien identifier c'est qui notre adversaire politique. Tu sais, c'est pas un qui est plus pragmatique, c'est pas un qui est plus militant. L'important, c'est de se rappeler que l'adversaire politique, c'est la CAQ, c'est le PQ, c'est le PLQ, et que c'est contre eux autres qu'on doit se mobiliser. Puis moi, dans mon travail.
Vous n'avez pas nommé les conservateurs, c'était-tu volontaire?
Ah non, je les ai oubliés, mais de toute façon, c'est assez naturel qu'on s'oppose aux autres, je dirais. Mais sur les valeurs comme sur les idées. Mais tu sais, pour moi, ce que je vais amener comme fraîcheur, comme façon de travailler, c'est vraiment on se mobilise tous ensemble. T'sais, c'est pas la responsabilité juste des 12 députés à l'Assemblée nationale de mener la barque puis de faire le travail. Moi, ce que je dis partout où je vais, c'est que c'est la responsabilité de chacune des personnes qui est membre, qui est déléguée dans nos instances, au Congrès par exemple, qui se sent sympathisant, qui vote pour Québec solidaire, de convaincre dans son milieu de travail, de convaincre dans son réseau personnel, de convaincre dans son syndicat, name it. Pour moi, ce qui est important, c'est que tout le monde se sente une responsabilité. Mm-hmm. Arrêtez de penser à regarder à ce que le parti peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour le Québec. Moi, c'est le message que je vais envoyer à tout le monde. Puis j'ai toujours travaillé comme ça, de la mobilisation. J'ai créé la coalition Non au troisième lien. J'ai créé, avec d'autres évidemment, là, j'ai co-créé Piéton Québec, qui est un organisme de défense des droits des personnes qui marchent au Québec. J'ai créé avec d'autres J'ai ma passe, un groupe de soutien au Tramway de Québec. Donc, c'est ma façon de travailler. On se mobilise ensemble, on se concerte, on se donne des objectifs communs, puis on se retrousse les manches, puis on travaille ensemble.
Vous parlez de convaincre des gens. Dans les dernières années, l'impression qu'on a, non seulement avec les chiffres des sondages, mais aussi généralement, c'est que non seulement Québec solidaire peine à convaincre des gens, il y en a qui quittent le navire vers d'autres partis qui aspirent peut-être plus au pouvoir. Puis ça, on l'a vu, cette espèce de déchirement-là de certains chez Québec solidaire qui voulaient peut-être faire le compromis de s'en aller un petit peu plus au centre dans l'optique de se rapprocher du pouvoir. Étienne Grandmont, il est dans quel camp? Est-ce qu'il est dans le camp? On respecte nos valeurs, quitte à peut-être perdre des appuis, ou il est dans le camp? On peut faire des compromis pour éventuellement s'approcher du pouvoir.
Tu sais, je sais pas si les gens sont familiers avec le principe de la fenêtre d'Overton. Là. C'est la fenêtre dans laquelle, le cadre dans lequel les discussions sont acceptables d'être discutées de façon publique. Ça veut dire que en dehors de ça, ces voix-là n'existent pas ou sont ridiculisées. Actuellement, la CAQ, qui a fait la décision finalement de se rapprocher de ses ennemis politiques, là, ses adversaires politiques principaux, que sont le PCQ puis le PQ, il a décidé d'aller franchement à droite. Puis on l'a vu, là, ce qu'il a annoncé à travers son remaniement ministériel, puis on va avoir la même chose dans pas grand temps dans son discours inaugural à la reprise de la session le 30 septembre prochain. C'est une attaque directement vers les droits des travailleurs puis des travailleuses. Il a décidé de foncer à fond là-dedans. Il a décidé de couper dans les services publics. Il a décidé de reculer en environnement. Bon, ça, c'est pour se rapprocher du PQ puis du PCQ. Ces deux partis-là sont déjà à droite. Il a décidé d'être collé sur eux autres. Donc, la grosse discussion macro là, qu'on a politique au Québec, là, elle se passe beaucoup à droite. On pourrait décider nous, pour exister dans ce discours-là, se recentrer. Moi, ce n'est pas ma vision. Moi, je pense que, considérant que la crise du logement, la crise de l'itinérance, la crise climatique qu'on a en ce moment sont trop importantes puis ont des risques potentiels immenses pour notre société, moi, ma vision, c'est qu'on reste franchement à gauche. On doit avoir ce discours-là très franc, très assumé pour envoyer le message que ça... Que ce n'est pas acceptable et qu'on doit travailler sur ces crises-là. Donc, ça va être à nous autres à avoir des propositions audacieuses, à faire des déclarations qui sont très claires, qui identifient à la racine ce que sont les problèmes. Et je fais le pari que cette fenêtre d'Overton-là, on va l'agrandir ou on va la redéplacer de notre côté parce que les gens, je veux dire, ils sont pris là, tous les jours avec une crise du coût de la vie qui est épouvantable aussi. Le loyer coûte cher. Fait, qu'est-ce qu'on fait pour... Quelles sont les bonnes propositions pour être capable de... C'est pas en reculant sur l'environnement, c'est pas en s'attaquant aux droits des travailleurs. Pas du tout, là. Les meilleures solutions, je pense que c'est Québec solidaire qui va les avoir et c'est à nous de bien les faire entendre dans le discours public.
Est-ce que ça a été ça, le problème dans les dernières années de QS, d'avoir des propositions intéressantes à vos yeux, mais de ne pas être capable de bien les transmettre à la population?
On a un gros travail, évidemment, là, de à faire au niveau de nos communications, sur la rencontre des gens. Moi, ma tournée que je fais en ce moment dans le cadre de la course au porte-parole, puis d'ailleurs, juste la course en elle-même, là, pas juste moi, là, mais le fait que Sol Zanetti, le fait que Yves Bonnivigé, on est trois candidats qui sont officiellement là, enregistrés, là, qu'on se déplace un peu partout sur le Québec avec des moyens, parce qu'on a le droit de récolter des dons, là, jusqu'à 500 $ par personne électrice qui peut donner à notre candidature. C'est quand même beaucoup de sous pour se promener un peu partout dans le Québec. Ajoutons à ça le travail qu'on va continuer à faire à l'Assemblée nationale. Ruba Gazal a fait un travail exceptionnel. Guillaume Krisch-Rivard, qui est le porte-parole par intérim puis qui est leader aussi à l'Assemblée nationale pour Québec solidaire, est très, très, très solide, notamment sur les enjeux d'immigration. Ça a sorti encore là, hier, là, Chantal Rouleau, qui envisage peut-être de couper l'aide sociale à des demandeurs d'asile. Imaginez donc, ça n'a juste aucun bon sens. On essaie de se créer une chicane avec le fédéral sur le dos de gens qui sont demandeurs d'asile. Ils ont fui la persécution, ils ont fui la guerre dans leur pays, puis on va leur couper les vivres 829$ par mois. Ben c'est ça. Guillaume, il est fort là-dessus, puis il dit très clairement, c'est profondément inhumain si jamais on s'en va dans cette direction-là. Fait que moi, je pense qu'on va réussir à persuader les gens que notre voix puis nos idées répondent à leurs besoins réels.
Parce que d'un autre côté, on regarde, puis on parlait tantôt du, en guillemets, virage à droite de la coalition Avenir Québec de François Legault. Quand on regarde les sondages sur plusieurs points, ben, il y a une raison pourquoi on veut entamer ce virage-là. C'est que c'est ce que la population veut majoritairement. Fait que du côté de QS, pas d'aller à l'encontre des désirs de la population, de dire non, nous autres, on va rester à gauche, on va s'entêter à rester à gauche, loin du pouvoir. Il n'y a pas un peu quelque chose d'illogique là-dedans?
Le troisième lien, là, il y a beaucoup de gens qui l'appuient. Les sondages, oui. Sondage après sondage, là, on voit que la population de Québec, de la grande région de Québec, est en faveur. Ça a baissé un peu dans le dernier sondage, je l'ai dit, mais quand même.
Ça a baissé parce que le projet de la CAQ...
Oui, c'est ça qui n'est pas le bon, effectivement. Mais ça pour dire, est-ce que ça veut dire que c'est un bon projet à réaliser pareil? Pas pantoute. Ce projet-là, il ne tient pas la route, ni d'un point de vue de finances publiques. Hey, 10 milliards, 15 milliards de dollars qu'on va pitcher là-dedans alors que nos écoles, nos hôpitaux tombent en ruine, pour vrai, là. Non, c'est pas un bon projet. Puis d'un point de vue environnemental non plus, je veux dire, les gaz à effet de serre qui sont associés à ça, la construction puis les autos qui vont passer là, plus les terres agricoles qu'on va venir construire, ça n'a aucun sens.
Mais
les gens le veulent, mais est-ce que c'est un bon projet puis il faut le faire? Pas du tout.
Mais c'est la démocratie. Les électeurs envoient au pouvoir des élus pour les représenter. Puis si ces électeurs-là veulent ces projets-là, Puis moi, je ne suis pas pro troisième lien, je ne suis pas contre non
plus.
Non,
j'entends, j'entends. Je comprends le principe, je comprends le raisonnement. Mais moi, là, pour moi, là, moi, je m'attends à des leaders aujourd'hui qui sont la classe politique, là, qui fassent preuve de courage, puis qui fassent preuve d'inspiration, qui fassent de la sensibilisation qui a un leadership positif. Je veux dire, là, on s'en va dans un monde où, finalement, là, les trois partis principaux, parce qu'ils ont décidé d'alimenter, par exemple, une rhétorique, le PQ puis le PCQ, une rhétorique anti-immigration, en mettant la faute de tous les problèmes du Québec, notamment en logement, en habitation, là, sur le dos des immigrants. Mais la crise du logement, elle existe depuis bien avant les immigrants. Là. Puis l'immigration n'est pas si présente que ça à Val-d'Or puis à Gaspé. Il y en a, mais pas comme à Montréal, à Québec puis à Laval, tu sais. Et pourtant, il y a des crises du logement aussi là-bas. Ouais. Fait qu'on alimente volontairement des problématiques qui n'en sont pas vraiment. Puis après ça, on se surprend que des sondages disent que les gens veulent qu'on contrôle mieux l'immigration. Je veux dire, ces élus-là, actuellement, là, je vais les nommer, là, je veux dire François Legault puis Paul Saint-Pierre Plamondon, ont des discours franchement dangereux sur l'immigration. Puis ça alimente une perception de la population que c'est ça la réalité. Alors, moi, je m'inquiète de voir ça, cette transformation, cette utilisation-là de données pour essayer de passer un message politique, pour essayer de surfer sur une vague politique qui met la faute sur les autres. Je ne pense pas que c'est sain, que c'est bon pour le Québec. Après ça, si le sondage dit ça, est-ce que c'est parce que c'est ça que les gens veulent vraiment ou si c'est parce que les politiques ont décidé d'envoyer des messages dans cette direction-là, puis tranquillement, pas vite, avec certains chroniqueurs, par exemple, aussi, envoient la population vers une certaine façon de penser. Moi, je m'inquiète vraiment de ça. Donc, je pense que les politiques ont vraiment une grande responsabilité dans le discours public puis dans ce que les gens veulent. Alors après ça, c'est de faire preuve de leadership bienveillant, positif, puis qui amène le Québec sur des vrais enjeux qui sont importants, comme la crise climatique, comme le droit au logement, comme plein de choses comme ça.
Pour l'immigration, je peux comprendre le point. Par contre, pour le troisième lien, je pense que les gens sont sur les routes chaque jour, puis qu'on considère qu'un troisième lien améliorerait la situation.
Mais prenons un autre exemple, mettons sur l'environnement. Là. Ouais. Alors, on le sait, là. Pendant la campagne électorale dans Arthabasca, le Parti québécois a décidé d'avoir un message où il dit « baissons le prix de l'essence ». Le Parti conservateur avait exactement le même message. La CAQ a décidé de faire la même chose aussi sous un autre, mm-hmm. avec d'autres mécanismes. Le premier ministre a décidé de travailler sur baisser, c'est ce qu'il a annoncé, là, il va baisser nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre au Québec. Pourquoi? Parce que, selon son argumentaire, aux États-Unis, on est en train de revoir à la baisse, évidemment, les objectifs environnementaux. Là. C'est Donald Trump, on ne s'attend pas à grand-chose d'autre de lui. Mais le problème, là, c'est qu'on nivelle vers le bas. Moi, je pense, et je ferai le pari, par exemple, dans le domaine de l'environnement, que plus vite on va faire la transition énergétique vers la sobriété en carbone, vers moins d'utilisation de pétrole de manière générale, plus vite, quand ça va être rendu le temps, là, que tout le monde va être rendu à la décarbonation de son économie. Si nous, on a fait le changement en 2025, 2026, 2027, 2030, si on l'a fait en premier, là, on va être les leaders de la prochaine économie qui va être décarbonée. Maintenant, on décide de ralentir le groupe avec tout le monde puis on décide de ne pas saisir l'opportunité. Fait que c'est une question de perspective. Moi, je pense que jouer fessier sur le domaine environnemental, c'est mauvais pour notre environnement, évidemment, mais c'est mauvais aussi pour l'économie du Québec de demain. Là.
Êtes-vous plus ou moins souverainiste que Sol Zanetti?
Je ne suis pas moins souverainiste que lui. Je te dirais qu'on a chacun nos moteurs d'engagement en politique. Là. Moi, j'ai décidé de faire de la politique il y a longtemps. Là. Je veux dire, avant, ce n'était pas partisan. C'était dans les contre-pouvoirs, là, les mouvements sociaux. Puis la justice sociale puis l'environnement ont toujours été mes moteurs d'engagement politique.
Avant le projet après de ça, souveraineté.
Après ça, la souveraineté, pour moi, c'est aussi un moyen utile et fort qu'on doit aller chercher pour être capable d'avoir les pleins contrôles sur notre territoire. Là, Mark Carney, en fait, il a réussi à gagner une élection fédérale sans parler d'environnement. Il vient de faire adopter le projet de loi C-5 sous Bayon, qui va lui permettre de passer n'importe quel projet, notamment le port de Contrecoeur. Il pourrait faire des oléoducs sur le territoire du Québec, sans notre avis. Alors, avoir le contrôle sur notre territoire, notamment, c'est un exemple que je donne, mais ça, la souveraineté seule peut nous le donner, parce que malheureusement, on est pris dans un carcan fédéral où Carney, là, lui, il gouverne en essayant de répondre aux aspirations des gens de l'Alberta puis des gens du Québec en même temps, ce qui est absolument impossible.
Est-ce que Québec solidaire est dans une drôle de position où là, je sais pas ça ressemblait à quoi dans les derniers sondages, mais je me souviens que pendant un bout, Québec solidaire était un parti souverainiste, mais pour qui la majorité des gens qui votaient n'étaient pas souverainistes. C'est-tu pour ça que ça, c'est des fois un peu touché chez QS de parler de souveraineté.
Non, pas du tout. Puis je te dirais que des gens qui sont pas souverainistes, qui pensent que le PQ devrait être le prochain parti au pouvoir, il y en a énormément aussi. T'sais. Fait que pour moi, c'est pas ça l'enjeu. On a une façon différente de concevoir l'accès à la souveraineté du Québec. C'est-à-dire que le Parti québécois, ça se fait sur une question dans un référendum. Pour nous, ça se ferait sous d'autres modèles, un autre modèle qui a déjà été expérimenté ailleurs. Là. C'est-à-dire qu'on crée une assemblée constituante qui est chargée d'écrire un projet de constitution. Ça se fait à travers une tournée du Québec où on va à la rencontre des gens, puis on écrit tout ensemble, tout le monde au Québec, un projet de constitution, et c'est sur ce projet de constitution-là qu'on vote pour l'accession à la souveraineté.
Référendum dans
plus démocratique, selon moi.
Référendum dans un premier mandat, c'est-tu une bonne ou une mauvaise idée? Parce que là, on s'en va là. Le PQ persiste et signe, puis là, je comprends que les sondages peuvent changer, on est dans l'hypothétique un peu. On s'en va vers un référendum dans un premier mandat pour le PQ, puis on semble pas vouloir changer d'idée. Ce que je respecte en passant, là, de dire qu'on voit les sondages, puis qu'on décide quand même, non, on y va. Puis là, moi, je pense qu'ils vont changer d'idée à un moment donné, mais on verra. Est-ce une bonne idée, un référendum dans un premier mandat?
C'est ça, exactement. Là, je veux dire, moi, je me prononcerai pas là-dessus. On va traverser la rivière quand on va être rendu au pont, mais il y a beaucoup d'analystes qui pensent que Saint-Pierre Plamondon pourrait reculer à la veille de l'échéance, en fait, d'octobre 2026. Fait qu'on verra rendu là. Notre option est toujours très claire. On veut une accession à la souveraineté du Québec, mais ça doit se faire dans un cadre qui est démocratique, sur lequel les gens vont pouvoir participer, non pas seulement juste voter sur une question, mais vraiment voter sur un projet qu'on aura coécrit ensemble, toutes les Québécoises et les Québécois.
On a parlé de ça, Zanetti, à quelques reprises. Ouais. On dirait que, généralement, j'ai de la misère à différencier. C'est quoi la différence entre un Étienne Grandmont comme co-porte-parole puis un Sol Zanetti? Est-ce que les idées, généralement, se ressemblent beaucoup, en effet?
Ben moi, j'inviterais vraiment les gens à suivre le débat qu'on va faire le 9 octobre prochain. Ça va être à Sherbrooke. Évidemment, si vous ne pouvez pas vous déplacer à Sherbrooke, inquiétez-vous pas. Québec solidaire va le diffuser aussi sur sa page Facebook, notamment. Fait que c'est là vraiment que vous allez pouvoir voir les lignes de différence, en fait, entre la vision de Sol Zanetti puis la mienne. C'est sûr qu'il y en a, mais je vais vraiment laisser les gens le découvrir. Puis je vais laisser Sol parler de ses intentions puis de sa vision à lui. Là, je pense que ça va être la meilleure façon pour toi puis pour les auditeurs de Boulevard là, de se faire une idée là-dessus. Là.
Étienne Grandmont, député de Taschereau pour Québec solidaire, maintenant officiellement candidat dans la course au co-porte-parole de Québec solidaire. Merci beaucoup.
Merci, Max.
Au retour, Audrey Pinchot qui s'amène et l'open mic, son segment va bien porter son nom parce que littéralement, c'est ce qu'on fait. Un micro ouvert. On a reçu un courriel cette semaine d'une personne qui est dans le domaine de l'agriculture qui vit des difficultés présentement et qui s'enligne pour devoir malheureusement abandonner ce monde-là. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'agriculteurs à l'écoute de Boulevard 102.1. N'hésitez pas à texter 418-971-102.1 et comment le contexte présentement. Bien hâte d'entendre Audrey et son invité dans l'open mic. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard, il est 10h52. Le Point de Max. 11h02 dans le Point de Max, 418-971-1021, le numéro pour nous rejoindre en studio par texto. Pour nous écouter, il y a le blvd.fm, la web radio. Il y a l'application Boulevard 102.1 aussi qui a fait peau neuve, qui est vraiment plus esthétiquement intéressante qu'avant. Ça fait que si vous pouvez nous traîner avec ça n'importe où, si vous partez à l'extérieur au courant du week-end notamment. Il y a toujours la belle communauté qui est là sur Twitch, qui est toujours bien contente de voir arriver Audrey Pinchot en studio. Audrey qui est là pour son open mic dans les prochaines minutes. Mais avant, des petites nouvelles pour vous. Le service de police de la Ville de Québec nous a envoyé un communiqué dans les dernières minutes pour nous informer qu'hier matin, les enquêteurs du module de la violence urbaine du SPVQ ont procédé à 3 perquisitions simultanées. Des interventions qui ont mené à l'arrestation de 2 hommes âgés de 38 et de 42 ans en lien avec des infractions en matière de trafic de stupéfiants. L'homme de 38 ans, c'est Carl Gauthier. Il a comparu en après-midi, là, hier, au Palais de justice de Québec. L'homme de 42 ans qui a été libéré sous promesse de comparaître. Donc, 2 perquisitions dans le secteur de Beauport, une autre dans le secteur Saint-Roch. On a quand même saisi pas mal de stocks, là, près de 2100 comprimés de méthamphétamine, 270 grammes de crystal meth, 700 grammes de coke, 1500 comprimés de médicaments d'ordonnance, 500 grammes de psilocybine, 105 grammes de kétamine, 1,5 litre de GHB, plein de vapoteuses de THC, une arme de type Airsoft et un bâton télescopique, plusieurs trottinettes électriques, près de 10 cellulaires, une torche lance-flammes, voyons, 30 000 $ en argent. Bref, il y avait du stock dans ces trois perquisitions-là. L'autre affaire, je vous parle de course à la mairie de Québec et de mafia. C'est le Journal de Québec qui a rapporté les propos dans les dernières minutes de Claude Villeneuve, candidat dans la course à la mairie de Québec pour le Parti Québec d'abord. Amad qui tient des propos qui s'apparentent à ceux de la mafia. C'est ce que dit Claude Villeneuve. Je vous lis le texte de Stéphanie Martin. Sam Amad tient des propos inacceptables et risibles qui ressemblent à ceux de la mafia, a dénoncé Claude Villeneuve. Sam Amad qui aurait dit « Fais attention à tes critiques contre moi parce que tu as deux belles petites filles. » Il s'adressait alors, semble-t-il, à Claude Villeneuve. Monsieur Villeneuve, qui a trouvé ses propos risibles et niaiseux, il a dit « Je lui ai ri au visage parce que franchement, c'est ridicule. On n'est pas dans Gangs of New York. On n'est pas dans un film de mafia. Je le voyais dire ça et je pouvais juste pas le prendre au sérieux. » Dit qu'il est incapable d'imaginer Sam Amad maire, que c'est inacceptable de tenir de tels propos. Ça aurait été mentionné à deux reprises en avril dans des événements publics quand Sam Amad discutait là, avec Claude Villeneuve dans un lancement de livre au Diamant en avril et dans un cocktail pour le club Lyon au manège militaire. Puis ce que M. Villeneuve dit, c'est qu'il n'y avait pas de témoins lors de ces incidents-là. Et Sam Amad devait tenir un point de presse ce matin à 11h. Fait que d'après moi, dans les prochaines minutes, là, on va avoir ces propos-là de Sam Amad qui vont être rapportés pour répondre à ces accusations-là de Claude Villeneuve. Sam Amad qui aurait dit, je vous répète, fais attention à tes critiques contre moi parce que tu as deux belles petites filles. Fait que, c'est ça qui est ça, Audrey, hein?
Je sais comme pas comment l'interpréter. J'ai hâte de voir comment Sam Amad va se sortir de là. C'est difficile hein, pour M. Amad. Honnêtement, jusqu'à maintenant, là, autant on le voyait en sauveur, autant on le voyait comme un espoir pour la ville de Québec, autant j'ai l'impression que là, les gens sont un peu shakés par rapport à cet homme-là.
Il y a deux options pour moi pour la défense de Sam Amad. Soit il dit que Claude Villeneuve est carrément un menteur puis que c'est jamais arrivé.
C'est pas la première fois qu'il le ferait en passant.
Soit il dit... Ben voyons donc, c'était une joke, puis c'était évident que c'était une joke. Mais d'après moi, ça va tourner plus vers...
C'est une drôle de blague, c'est
même,
curieux.
Même en joke, de dire « je vais m'attaquer à tes petites filles si t'es trop méchant envers... » Ouais, ça passerait mal. Fait que d'après moi, il va opter Sam Amad pour l'option. Claude Villeneuve est un méchant menteur. Ça va, Audrey?
Ça va bien. Ça va shaker un peu ce matin, puis ça va dans la lignée du pourquoi on aborde le sujet qu'on va aborder dans l'open mic. C'est le genre de sujet puis d'entrevue où je me sens un peu submergée parce que je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Je veux que ce soit le bon message qui soit véhiculé. Puis c'est un cri du cœur. Donc, quand c'est un cri du cœur, t'as envie qu'il soit entendu. Ce matin, on va parler avec Sarah Tessier, qui a 23 ans, qui est agricultrice. On a beaucoup des agriculteurs par texto 88-971-1021. Je sais qu'on a une auditoire où on en a plein depuis des années. Mm-hmm. C'est un peu la base de notre société, hein, l'agriculture. On va se le dire. Il faut qu'on mange, il faut qu'on se nourrisse. Ça fait partie un peu de notre écosystème.
T'sais. Même pour moi qui ne mange pas beaucoup de fruits et légumes, là.
Ben oui, ben, mais de plus en plus, il y a de la viande aussi, Max, le lait, c'est
ouais,
tout
mais
ça,
même ça, moi, en tout cas, mais sais-tu, j'ai commencé davantage à prendre soin de moi. Maintenant, je fais l'épicerie tous les mardis et j'achète toujours des fraises, des framboises, tout ça.
Ben, félicitations, Max, t'es un homme nouveau.
Fait que moi aussi, maintenant, j'ai beaucoup besoin des agriculteurs.
J'espère que t'achètes des fraises
du Québec, ben oui, évidemment.
Ça sera un peu contradictoire. Je vous dis que c'est un cri du cœur parce que c'est un courriel qu'on a reçu de Sarah. Puis d'ailleurs, je vous ouvre la porte. Quand vous avez des choses à jaser, des situations, que ça touche le domaine de la santé, une situation personnelle, n'importe quoi, l'open mic, ça rassure. Puis c'est une des premières fois où réellement l'open mic peut porter son nom parce qu'on va carrément laisser la parole à cette jeune femme-là ce matin. Elle est agricultrice, puis en fait, elle veut être prise au sérieux parce que c'est un vrai bordel au Québec, l'être. Donc, c'est un cri du cœur sur la réalité agricole de ce que les producteurs peuvent vivre au moment où on se parle au Québec. L'open mic. Just in time
for open mic. Dans Le Point de Max, c'est l'heure de l'open mic avec Audrey Pinchot. First time I tried an open mic, I knew.
Donc, son but, c'est de se faire entendre, c'est d'être aidée. Elle est loin d'être la seule dans cette situation-là. C'est pas la première fois qu'on en parle, mais cette situation, je la trouve quand même particulière parce qu'il y a plein de points intéressants. Je vous fais un peu le portrait, puis je lui laisse la parole. Donc, Sarah Tessier, 23 ans, elle est née sur une ferme porcine et de grande culture. Elle a rencontré son conjoint à l'âge de 17 ans, qui lui aussi est fils d'agriculteur. Avec une plus grosse ferme encore, on parle d'une ferme porcine, laitière et de grande culture. Elle est tombée enceinte assez rapidement dans sa jeunesse. Elle prenait la contraception, mais des fois la vie. Hein. Puis ont décidé de garder cet enfant-là, puis quatre autres ont suivi. Fait que si vous faites le calcul, 5 enfants de 5 ans et moins au moment où on se parle. C'est de la job.
C'est de la job, puis là, on n'entre même pas l'agriculture là-dedans.
Non,
là.
De base.
Juste 5 enfants de 5 tabarouettes.
C'est de la job. Mais souvent, c'est plate à dire, mais bien, plate à dire. Généralement, les gens qui vivent sur les fermes, qui font de l'agriculture, qui ont souvent des grandes familles, ont
c'est
souvent.
Dans la culture.
Absolument. Puis leur rêve, c'est de devenir agriculteurs parce qu'ils ont adoré grandir sur une ferme et ils ne sont pas les héritiers des fermes familiales. Ce qui complique un peu leur situation aussi, mais malgré ça, ils ont décidé de pousser puis de vouloir créer par eux-mêmes, justement, tout ce qui touche leur terre aujourd'hui. Donc, je lui laisse la parole. Sarah, bon matin.
Bonjour.
Merci d'oser venir jaser. Je sais que c'est toujours un peu intimidant quand on n'est pas habitué de
non,
se ramasser dans un studio radio puis de prendre la parole. Tu nous as carrément envoyé une lettre que tu veux qu'il soit publié, envoyé au ministre, que tu veux qu'il fasse jaser, parce que c'est pas juste une question de ce que je comprends de t'aider toi et ta famille, mais d'aider les agriculteurs tout court, là.
Non, exactement. Dans le fond, là, moi, c'est une travailleuse de rang qui m'a conseillé d'écrire ce que je ressentais sur papier. Après avoir mis toute mon âme et toutes mes larmes dans cette lettre-là, là, j'ai braillé ma vie tant que je pouvais.
Je comprends donc.
Puis j'ai décidé de la publier anonymement sur les réseaux sociaux. Ça l'a fait une trollée, carrément. Mm-hmm. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes qui vivent la même situation que moi. Cette lettre-là va être envoyée au ministre, va être envoyée au Sommet canadien sur la santé mentale à Calgary la semaine prochaine. Donc, c'est là qu'on m'a conseillé.
Je tiens à dire, pour les auditeurs qui ne savent pas, parce qu'on a déjà parlé avec une travailleuse de rang dans l'open mic l'année passée, c'est une personne qui est travailleur social qui est intervenant, mais vraiment pour les agriculteurs puis les gens qui travaillent dans les champs. Puis, fait que sont vraiment spécialisés pour aider la santé mentale dans le monde de l'agriculture. Finalement, c'est carrément ça, là.
Oui, puis en fait, ce programme-là a été fait parce que le plus haut taux de suicide dans le métier, c'est chez les agriculteurs. Donc là, le gouvernement a décidé d'offrir une aide là-dessus parce que vraiment, les agriculteurs, on en a besoin, puis les agriculteurs, on en arrache.
Écoute, avant de te poser mille et une questions, parce que je pense que moi puis Max, on a la tête pleine, fais-nous peut-être le portrait de ton histoire, parce que là, j'ai donné les grandes lignes, mais mettons que tu nous fais le résumé de c'est ça, comment vous avez parti ça, vous autres, votre firme, vous en êtes où, ce que ça représente, puis le pourquoi, justement, tu lances cette lettre-là au final. Là.
Oui, bien, dans le fond, comme tu l'as dit, on est nés tous les deux sur une ferme. On voulait vivre tous les deux. On voulait faire vivre nos enfants sur une ferme parce que c'est fantastique. Après ça, comment je pourrais dire ça? Comme on n'était pas héritier, il fallait absolument partir un autre sideline pour avoir une ferme parce qu'avoir une ferme, de base, c'est pas payant. La terre ne fera pas les paiements de la terre. Il faut travailler ailleurs. Donc, on a créé une compagnie de transport agricole, de forfaitaire agricole, ce qui nous rapprochait le plus possible de notre rêve en faisant un petit peu d'argent, un peu. Puis c'est vrai qu'au début, ça allait quand même bien. Puis là, on a eu l'opportunité du siècle, on a pu acheter notre terre, on était aux anges, on a créé notre ferme, on s'est dit « Hey, on va être la première génération de notre ferme ». On était sur un nuage. Puis, à un moment donné, le contexte de la ferme nous est rentré dedans solide. Le forfaitaire agricole, c'est pas très payant. On va se dire, c'est pas très payant. La machinerie vaut beaucoup trop cher versus ce que je peux charger aux agriculteurs. Et les agriculteurs, veux pas, n'ont pas les moyens de payer trop cher non plus pour du forfaitaire parce que, de base, une terre n'est pas rentable. Fait que c'est là qu'on rentre dans un escalier, un trou sans fond. On essaye d'investir toute notre âme, on a investi toutes nos économies là-dedans, puis on s'est rendu compte qu'on va s'en aller tout droit dans un mur, puis ça sera pas très long, là.
Fait que là, t'es au moment un peu où tu sens que t'auras pas le choix d'abandonner un, ce rêve-là, mais j'imagine ta terre, ta maison, ton c'est tout, là.
Ben, pour faire court, là, moi, je cours la chance de gagner à l'auto qui va perdre tout, là. Puis je vais perdre ma maison, je vais perdre mon terrain, je vais perdre ma ferme, je vais perdre mes animaux, je vais perdre ma terre. Je vais perdre non seulement tout ce matériel-là, mais aussi la joie de faire vivre mes enfants sur une ferme.
Puis parce moi, que c'est un métier, c'est une vocation, on va se le dire. Là. C'est une passion travailler sur les terres. Puis, hey, j'ai un ami, moi, qui travaille là-dedans. Le chum à l'Auderie, de David Simard, les fermes Simard, je veux dire, ça n'a pas de bon sens, les horaires. Là. Tu travailles des semaines de débile à ne pas en voir ta famille, à te lever à des heures pas possibles. Vous êtes comme la base, en fait, un peu de la société, là, la chaîne alimentaire, je veux dire.
Oui, c'est un petit peu pour ça que j'ai fait la lettre en disant que c'est incroyable, là. C'est pas possible qu'on puisse vivre ça parce que tôt ou tard, parce que là, moi, je parle de la relève parce que moi, je fais partie de la relève, mais en réalité, c'est pas juste la relève qui en arrache, là. Mm. C'est tous les agriculteurs. Puis pour faire un exemple, c'est on voit l'inflation. L'inflation, ça veut dire que le prix des terres a augmenté, le prix de la machinerie a augmenté, les pièces pour réparer la machinerie a augmenté, la main-d'œuvre, qui n'est même pas qualifiée, a augmenté. Ça a doublé depuis les 10 dernières années. Puis quand on regarde le prix du grain, il n'a pas bougé du tout.
C'est pour donner un exemple, parce que tu le cites un peu dans tout ce que tu m'as envoyé, tes beaux-parents qui ont une immense ferme depuis 60 ans sont plus capables de faire leur paiement.
Non, c'est ça.
Ça en dit franchement long.
Et
là,
après ça, c'est un cercle vicieux. Si ceux qui sont là depuis toujours, puis pour qui ça a déjà quand même relativement bien été, ben là, de la relève, je veux dire, qui va se lancer là-dedans? Là? Je veux bien la passion, là, mais qui va se lancer?
Mais c'est suicidaire, je veux dire, c'est... Puis c'est drôle parce que, tu sais, moi, mon ex-copain a toujours eu le rêve d'avoir ça, une ferme. Puis quand on était ensemble, je me souviens, il m'en parlait beaucoup, tu sais, d'avoir, hey, on s'achèterait-tu une terre? Puis honnêtement, tu regardes tout ça, puis tu te dis, mais tu veux-tu une vie ou t'en veux pas une, là? Parce que... Fait que moi, à la base, je lève mon chapeau tellement aux gens qui le font. Puis je sais que ça vient du cœur puis que c'est de la passion. Est-ce que tu as l'impression, Sarah, de ne pas être prise au sérieux parce que tu as 23 ans? Tu sais, il y a des gens qui font ça depuis toujours. Tu as 23 ans, tu trouves déjà ça difficile. Est-ce que tu as l'impression que tu fais face à un jugement des fois par rapport à ça?
Ah oui, puis on me le dit. Ben voyons donc, tu es toute jeune, tu n'as rien vécu, tu ne sais pas encore, tu ne connais pas ça, la vraie misère. Ça, on me le dit, là. Tu ne connais pas ça, la vraie misère, ça me donne le goût de continuer, là. C'est, pour vrai, c'est incroyable, là. On peut pas continuer comme ça. Puis d'un sens, il faut se poser comme question, qu'est-ce qu'on veut en tant que société? Parce que si ça continue comme ça, les fermes vont fermer les unes après les autres. Puis il va continuer d'en avoir de l'agriculture, mais on va s'américaniser un peu. Ça va être des grosses fiducies qui viennent des grosses villes qui vont contrôler ça. Puis on n'aura plus ça, le beau petit ferme familiale du Québec qu'on peut aller voir, qu'on peut aller visiter. Il n'y aura plus ça, là. C'est savoir, c'est qu'est-ce qu'on veut en tant que Québécois pour les agriculteurs, pour l'agriculture. C'est quoi qu'on recherche?
Mm. Puis vous, de votre côté, là, concrètement, de quoi vous auriez besoin? C'est quoi aujourd'hui, mettons, ta demande au gouvernement? Est-ce que tu as de quoi de concret ou c'est juste tellement large puis c'est tellement problématique que tu le sais même pas tant que ça, qu'est-ce que tu veux? Tu sais juste que tu as besoin d'aide.
Bien, c'est sûr que c'est très, très général, mais si on va plus dans le pointu, les subventions du gouvernement, c'est rire de nous. C'est carrément rire de nous, là. Là, mettons, on parle de l'aide financière qui est non accessible. Dans le fond, il y a tellement de cases à remplir que la plupart des agriculteurs n'ont pas accès. Puis, en même temps, les programmes qui ont, quand on réussit à remplir toutes les cases, souvent, c'est des programmes qui n'ont pas de fonds. Donc, si je dis juste une affaire concrète qui est arrivée, il y a deux semaines, moi, je fais de l'engrais vert. L'engrais vert, c'est subventionné parce que c'est vert, c'est pour l'environnement et blablabla. Remplis toutes les données, va m'inscrire sur le site pour avoir accès à ça. Puis là, poup, à un moment donné, oh non, c'est désolant, on n'en a plus de fonds pour toi.
OK, fait que t'aurais eu accès à un fonds, tu respectais les critères, mais il n'y avait plus une scène dans le fond, fait que c'est comme, ouais, ben, too bad, il y en a d'autres qui sont passés avant toi.
C'est exactement ça. Ah, puis des programmes comme ça, il y en a un, puis un autre. Moi, je t'en ai nommé un, v'là deux semaines, dans ma catégorie, là, tu sais, il y en a un puis un autre. Puis il y a tellement de bureaucratie que c'est interminable. Il y a beaucoup d'agriculteurs que ça les intéresse même plus d'aller chercher les subventions, là, c'est ça.
C'est décourageant plus qu'autre chose.
C'est ça. Puis les subventions, c'est rire de nous autres carrément. Là. Mettons, là, je veux acheter un planteur que j'achète usagé, je l'achète 100 000. Là, la subvention, ça va être 10 % Ah, oh, c'est quand même intéressant, 10 % ça veut dire que j'ai 10 000. Mais le gouvernement, lui, il va séparer ça sur 3 ans en 12 versements égaux.
Ah ouais.
Fait que je vais avoir 833 aux 3 mois. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire avec ça, là?
Ça t'amène pas bien, bien loin, là.
Non, non.
Je t'ai lu un texto parce que je trouve ça triste. On parlait de la relève, tu sais. Y a William qui nous dit « À seulement 19 ans, j'ai commencé à travailler sur une ferme laitière familiale. 80-90 heures semaine minimum. Il n'y en a pas de relève. Les enfants veulent pas prendre la ferme. C'est pour ça qu'ils ont décidé de m'engager. Les prix, c'est n'importe quoi. Les paiements passent plus. Le rendement sur les cultures cette année, n'importe quoi aussi. Mon rêve, c'était d'avoir une ferme laitière. Puis sérieusement, je me remets de plus en plus en question. » Je trouve que ça fait peur quand tu y penses. Puis, il y a un moment dans ta lettre, Sarah, où tu dis que tu parles du regard des autres versus la réalité. Tu sais, on t'entend ce matin, puis je suis sûre, et je mettrais ma main au feu qu'il y a des gens qui doivent se dire qu'ils ne connaissent pas le contexte. Voyons, ils chialent tout le temps, les agriculteurs, c'est jamais assez, il me semble. Ils ont le ventre plein, la valeur de leur ferme, ça vaut quelque chose. Ils ont une belle terre, ils ont une belle maison, ils ont du terrain, on
trouve
plus ça.
Dis-le que c'est ça que tu penses, là, cache-toi pas derrière quelqu'un.
Écoute, je vais t'en... Moi, je viens de la Côte-Nord. Hein. Je saisis un peu ce milieu-là. Puis, tu réponds quoi à ces gens-là si tu nous fais voir un peu peut-être la réalité de ton quotidien?
La réalité de mon quotidien, c'est toujours travailler plus fort, toujours plus, jamais assez, pour un très peu que je suis capable de faire. En ce moment, je suis pas capable de faire mes paiements, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agriculteurs. Mm. Fait que moi, je continue de payer des intérêts. Ces intérêts-là, de toute façon, même si je fais pas les paiements de la terre, même si la terre augmente en valeur, les intérêts que je paye, c'est beaucoup plus que ce que la terre prend en valeur. Dans le fond, moi, là, je suis un trou sans fond. Je vais tout perdre, puis je vais avoir investi toutes mes économies, puis je vais toutes les perdre aussi.
À quel point t'es proche de tout perdre, mettons, là? Donc, on met pas de gants blancs, là. À quel point, là, t'es dans la marde?
À quel point que je suis dans la marde? Et Colin, je sais pas si je vais semer l'année prochaine.
Mon Dieu.
C'est une affaire de mois, là.
Ouais, c'est ça.
Puis tu réponds quoi, Sarah, aux gens qui te diraient « Ben oui, mais crime, t'as 23 ans, vends tout ce que t'as, tu vas récupérer ton argent puis vis ta vie? »
Je récupère rien. J'ai tout investi, ce que j'avais. Quand je dis « je vais tout perdre », c'était pas pour à profit. Je vais tout perdre, je vais me retrouver avec zéro. Fait que je vais falloir que, non seulement j'ai investi toutes mes économies là-dedans, j'ai plus d'argent de côté, mais moi, j'ai 5 enfants à faire vivre, là. Mm. Je peux pas me permettre de tout perdre. Mais la vie s'en va là. Puis c'est pas parce que c'est ça que je recherche, c'est parce que la vie d'agriculteur, c'est pas rentable. Puis on me l'avait dit aussi depuis le début, tu vas voir, l'agriculture, c'est dur. Mais j'ai vécu sur une ferme. Moi, j'ai déjà l'expérience. C'est, pour moi, là, le travail sur une ferme, là, c'est ma vie. Mais ça a l'air que ça sera pas ça pour les années à venir.
T'as-tu un peu d'espoir que ça peut se rediriger, que ce cri du cœur-là peut se rendre? T'as-tu un peu d'espoir que peut-être que ça peut rester ta vie? As-tu parlé avec d'autres agriculteurs? Les démarches ressemblent à quoi en ce moment, mis à part la lettre, tu sais? Ou t'as l'impression que c'est terminé?
Ah oh non, mais on continue de pousser, là. Là, on est comment je pourrais dire ça? On est en recherche du financement auprès de la Financière agricole du Canada. On recherche une nouvelle façon de restructurer ça pour que ça puisse marcher, mais on me demande d'aller travailler ailleurs en plus. Dans le sens qu'il va falloir que je me trouve une job 40 heures semaine parce que cette ferme-là ne sera pas capable de me donner de salaire.
Puis sur cette ferme-là, tu fais déjà probablement
un
genre
de 90 ans. Puis sur cette ferme-là, c'est ça, je travaille déjà tout ce que je peux donner. Fait que moi, on me demande de travailler deux fois plus sur quelque chose que je travaillais deux fois plus que le monde en général.
Fait que des solutions, là, tu viens d'en nommer quelques-unes, peut-être à court terme, ou sans dire des solutions, peut-être des options qui pourraient, on l'espère, devenir des solutions. Mais en bout de ligne, là, si tu n'en as pas d'aide du gouvernement, si ce que tu nous nommes depuis le début, si ces problèmes-là, ben, il n'y a pas de réponse, présentement, ce qui est en place, tu ne pourras pas survivre avec ça?
Non, probablement pas. En fait, là, le problème, c'est que les dépenses... Parce que les fermes allaient bien, v'là 20 ans. ça allait bien, les dépenses, les revenus couvraient les dépenses.
Là, les dépenses augmentent, les c'est revenus n'ont pas à s'augmenter.
C'est ça, puis dans le prix du porc, là, dernièrement, le prix a baissé. Comment tu veux arriver si toutes les dépenses ont doublé?
Puis tes revenus baissent.
C'est ça, exactement. Pourtant, on travaille autant qu'avant, là. Il n'y a rien qui a changé à part l'inflation sur les dépenses. C'est là qu'il va falloir trouver une solution parce que je suis pas tout seul, là. Je suis pas une petite ferme là, qui va s'en aller, qui va faire faillite limite puis qu'on n'entendra plus parler de moi. Non, non, on est plein là-dedans. Là. Le voisin a fait en camp, ça c'était la grosse ferme du canton. Le voisin a fait en camp. J'ai une amie, elle, il a fallu qu'elle vende une terre parce qu'elle était plus capable d'arriver. Mes parents sont plus capables, sont juste capables de payer les intérêts. Mes beaux-parents, qui ont une super belle ferme, là, c'est impressionnant. Puis eux autres, ils sont dans le même bateau que tout le monde. Là.
Fait que peu sont les gens qui réussissent finalement. C'est un peu c'est ça qu'on comprend. C'est ça. Là, je saisis tout ce qui est gouvernemental, tout ce que, tu sais, nous autres, je vais nous appeler petit peuple, là, mais je veux dire, sur le terrain des vaches, on ne sait pas trop comment on peut vous aider. Est-ce que les consommateurs peuvent faire quelque chose concrètement où on est un peu mains liées, à part vous encourager localement? Je veux dire, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire ou visiblement, la seule porte d'entrée, c'est le gouvernement?
Bien, en fait, ce qu'il faut se poser comme question, c'est qu'est-ce qu'on veut comme agriculture? Si, en plus, la population nous encourage, nous soutiennent à aller voir le gouvernement puis qu'on puisse avoir les subventions possibles. Parce que hey, j'ai amené des documents avec moi. Là. J'ai amené un document qui date du 25 mars 2025 sur où va notre argent avec nos impôts. Et là, on voit que la première, c'est la santé. Après ça, on voit que c'est l'éducation. Après ça, c'est la loi et l'ordre. Après ça, c'est le transport. Après ça, c'est la dette. Après ça, c'est la famille. En tout cas, et là, il y en a plein, plein, plein. Et après ça, il y a la petite section « autre ». La petite section « autre », ça l'inclut la francisation, ça l'inclut l'agriculture, ça l'inclut tous les petits à côté que on aimerait bien que ça aille mieux, mais que, ben, just too bad.
C'est pas le restant,
c'est ça, c'est pas prioritaire. Et j'ai aussi amené la pyramide des besoins selon l'échelle de Maslow.
C'est
puis
bon,
c'est là qu'on voit que nos priorités sont peut-être pas à bonne place.
Ouais.
Parce qu'on voit que de base, c'est manger, se nourrir, puis la santé. Là, c'est pas pire, la santé numéro un. Oh, regarde, c'est beau, on l'a. Après ça, on a se loger, on a l'amour, on a le besoin d'estime. Puis après ça, on a besoin d'accomplissement, ce qui est toutes les à côté de ce qu'on pourrait faire, la passion et blablabla. Mais la base, c'est le petit autre qu'on a coché à la fin, là.
Non,
puis c'est ça qu'on est en train de se dire, ben voyons donc, est-ce que l'agriculture n'est si pas d'une priorité pour le gouvernement à ce point-là? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est qu'est-ce qu'on veut?
Sarah, je trouve ça super intéressant de t'entendre ce matin. Puis c'est drôle parce que la dernière question que je m'étais notée, c'est si tu avais la chance de t'adresser directement au ministre de l'Agriculture, qui a changé en passant, là, parce que c'était André Lamontagne. C'est Donald Martel depuis la semaine
exactement.
Passée. Tu sais, qu'est-ce que tu lui dirais, mais en même temps, tout ce que tu nous dis depuis à peu près une vingtaine de minutes... C'est assez clair, tu sais, ce cri du cœur-là. Je souhaite vraiment que ça avance parce que c'est pas la première fois qu'on en parle. Écoute,
Mais ta demande au ministre, serais-tu juste d'être écouté? Est-ce que tu ça la base? Est-ce que tu sens présentement que au final, on va rien régler parce qu'on n'a même pas d'écoute?
Ben, c'est pas juste ça, là, parce que moi, je demande aussi un peu à la population de nous écouter. Parce que là, on a beau crier tant qu'on peut... on a faim. C'est plate, là, mais...
Si c'est juste les agriculteurs...
On est une petite poignée,
c'est
là.
C'est ça. Ça vous prend la population
qui
littérale.
Vous ça. C'est exactement ça. Puis si on est tout seul qui part au front, puis qui veut pas, là, je comprends que la population veut l'acheter selon le portefeuille, puis c'est correct, c'est normal. Mais moi, à un moment donné, je serais plus capable de produire ce que j'ai. Puis je suis même pas capable de me donner de salaire. Fait que même si je mets toute mon énergie dans tout ce que j'ai, que je me donne corps et âme, que je broye ma vie à chaque soir parce que je le vois bien que demain, j'arriverai pas, ben ça m'aide pas de broyer la nuit, là. Mm-hmm. S'il y a rien qui va m'aider, mais si on a l'aide de la population qui nous comprend, qui nous écoute, qui nous pousse à continuer comme ça, ben là, ça pourrait donner envie de continuer.
Puis c'est un cercle vicieux quand tu y penses, parce que si vous aviez l'aide du gouvernement, probablement qu'on serait capable de rendre, j'imagine, à un certain point, notre nourriture locale plus accessible, je vais le dire comme ça, ouais. Ce qui fait en sorte que peut-être que comme consommateur, on se verrait pas mal plus vers le local. Tu sais, il y a comme une... Faut que la roue change de bord, c'est carrément oui. Ça, puis ça, ça prend de la volonté.
C'est exactement ça, puis c'est pas pour rien que les fraises du Québec sont plus chères que celles des États-Unis, là. C'est parce que les Québécois sont pas capables d'arriver. Mm. Fait qu'il faut qu'ils mettent un prix au bout de leur produit, parce qu'eux autres aussi, ils vont fermer. C'est ça, l'affaire.
Puis il faut que vous mangiez, tu l'as dit, t'as 5 enfants, là.
À un moment donné...
Faut les nourrir, faut que ça survive, ce beau monde-là. Sarah Tessier, je te remercie vraiment d'être venue ce matin dans l'Open Mic, d'avoir osé parler. Je sais que c'est pas toujours facile de se mettre un peu en lumière puis de porter le message pour tant de gens. On va rendre ça disponible, évidemment, sur le blvd.fm, sur la chaîne YouTube. Puis la lettre que tu as écrite, que tu nous as envoyée, on va s'assurer de la publier aussi sur le site web de Boulevard. Je te souhaite toute la meilleure des chances. N'hésite pas à nous faire un suivi en passant. Si ça bouge, s'il y a quoi que ce soit, lâche-moi un petit texto. On se tient au courant, tout simplement.
Merci beaucoup.
Il y a des textos qui entrent. Philippe qui dit « Aujourd'hui, je peux vous dire que de mon côté, je l'ai entendu. C'est pas j'espère, c'est il faut qu'elle soit entendue par le nouveau ministre. On a ici mon rêve en tant qu'agriculteur, qu'on soit payé comme les profs et les infirmiers, c'est-à-dire par le gouvernement, car on est une priorité selon moi. » C'est pas nécessairement très fou non plus comme façon de voir les choses. 418-971-1021. Puis comme on l'a dit en ouverture, l'open mic, là, on l'a vraiment pris au pied de la lettre, le nom, aujourd'hui, en laissant la parole à quelqu'un qui avait un message à partager. N'hésitez jamais, vous pouvez écrire à Audrey aussi, à page Facebook de Boulevard, par texto 418-971-1021. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Audrey.
Salut, on se voit demain.
Au retour, Pascal CV s'en vient et je vous parle aussi d'une saisie record de plus de 56 millions de dollars en crypto-monnaie. Le temps de vous dire à 11h30 que le pont Pierre-Laporte, direction nord, là, en fin de tablier, il y a des débris dans la voie de gauche puis dans la voie du centre, ce qui fait que c'est partiellement entravé. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard. Le Point de Max. 11h38 minutes dans le Point de Max à Boulevard 102, 418-971-1021 par texto. S'il y a quoi que ce soit, et j'ai le grand bonheur d'accueillir en studio Pascal CV. Comment ça va, Pascal?
Wow, on dirait que tu me présentes devant une grande foule avant un show rock.
Salut, exact. Max. Oui. Hey, as-tu vu le communiqué de la GRC qui est entré dans les dernières secondes?
Dis-moi tout.
On nous parle d'une saisie record de crypto-monnaie. Sais-tu combien d'équivalent en dollars là, de crypto-monnaie la GRC a saisi?
Je suis vraiment contente qu'on fasse la conversion parce que souvent, je trouve que c'est tellement pas concret, la
genre
crypto-monnaie.
Genre 0,12 bits, je sais pas quoi.
Tout le monde est comme « Wow, vas-y ».
56 millions de dollars de crypto-monnaie saisis. C'est la police fédérale de la GRC région de l'Est. On nous parle d'un travail d'enquêteur spécialisé en crimes financiers, en cybercrime et en crypto-monnaie. Et 56 millions récupérés à partir de la plateforme que je ne connais pas, TradeAugury. C'est la première fois qu'une plateforme d'échange de crypto-monnaie est démantelée par les autorités au Canada. Ça aussi, c'est intéressant que ce soit la première fois que ça arrive, ouais. Là, qu'on démantèle vraiment une plateforme d'échange de crypto-monnaie qui vraisemblablement était problématique. Ce qu'on nous dit, c'est que l'équipe d'enquête sur le blanchiment d'argent a amorcé cette enquête-là en juin 2024. On a reçu de l'information de la part d'Europol et on nous dit que le site contrevenait aux lois et réglementations canadiennes, n'était pas enregistré, entre autres choses, en tant qu'entreprise de services monétaires, ne faisait pas l'identification de ses clients. Les enquêteurs qui ont des raisons de croire que la majorité des fonds qui étaient transigés étaient d'origine criminelle. Le principal attrait de ce type de plateforme qui ne demande pas aux utilisateurs de s'identifier pour détenir un compte est d'en cacher la provenance. Il s'agit d'une tactique empruntée par les organisations criminelles qui favorisent le blanchiment d'argent. Et là, saisie donc de 56 millions de dollars en crypto-monnaie. C'est du stock.
Ça devient un peu plus concret dans notre façon de faire les choses au quotidien. C'est plutôt encore en argent normal. Je ne sais pas au 88-971-1021 s'il y a tant d'auditeurs qui ont embarqué dans cette vague-là qui est très, tu sais, elle fluctue énormément.
Moi, j'ai acheté une coupe de 1000. j'ai perdu une coupe de mille.
En crypto-monnaie?
Ouais.
T'avais quel âge? Dans tes bulles,
il y a 3-4 ans.
Ouais,
là.
C'est ça, c'est dans tes bulles. Il faut savoir que Max a certaines bulles qu'elle il trippe un bout, puis après ça, il arrête. Là. Mais écoute, moi, ça me fait penser à une autre perquisition. Là. Ici, il y a eu l'arrestation de deux hommes dans les dernières heures. C'est sorti dans les nouvelles. C'est en lien avec le trafic de stupéfiants. On le connaît un peu plus, ça. Ça veut pas dire que c'est mieux.
Et hey, puis du stupéfiant, il y en avait en Simonac. Hein?
Hein, caverne d'Ali Baba, c'est le terme qu'on a utilisé, en fait, pour les trois perquisitions qui ont été faites de façon simultanée dans Beauport et Saint-Roch. Ça veut dire on frappe au même moment, vraiment, là, dans différents endroits pour être sûr qu'ils ne s'appellent pas entre eux. C'est un peu ça, là. Hey, une saisie de près de 2100 comprimés de méthamphétamine, là, la meth.
Déjà là, il y a du stock pour une grosse fin de semaine.
Tu ne survis pas.
Ben, en effet, une gang pour une fin de semaine, une bonne gang. Mais comme consommez pas ça, là, continue. Là,
la province est plus.
Je me coule.
Oui, 270 grammes de cristal meth, 700 grammes de cocaïne, 1500 comprimés de médicaments d'ordonnance. On s'entend que c'était pas pour traiter de la maladie. 55 grammes de psilocybine, 105 grammes de kétamine, 1,5 litre de GHB.
Beaucoup, beaucoup de grosses fins de semaine.
Des vapoteuses au THC. OK, mais c'est pas tout parce que là, les policiers ont aussi
mis
la main.
C'est mon bout préféré, ça.
Sur des armes, là. Et on avait des armes de type airsoft, un bâton télescopique, plusieurs trottinettes électriques.
C'est ça. C'est, moi, c'est les trottinettes électriques.
Peut-être pas de la livraison, là, si tu me permets de me demander pourquoi.
Ben,
là.
De la livraison ou c'était juste du stock volé, mais j'avais pas pensé à la livraison.
Ben,
peut-être. C'est malade si c'est vraiment bien organisé et eux autres font leur livraison en petit scooter, en petite trottinette électrique.
Une dizaine de cellulaires, 30 000 en argent liquide et une torche lance-flamme.
Oui!
On était prêts à faire toutes des interventions particulières et tragique peut-être, là, je
ou
sais
c'est
pas.
Pour continuer la livraison en hiver avec les trottinettes. Tu mets ça en avant de ta trottinette électrique.
Tu déneiges au fur et à mesure. C'est vraiment con ce qu'on est en train de dire, mais les trottinettes électriques, ça m'a rappelé un des dossiers que j'ai fait avec toi d'un commerce qui avait été volé ici. Là.
Ah, je pensais que tu allais me parler du docteur Luc Boileau.
Non, pas du tout. Non, pas du tout. On reste dans les crimes et larcins. Mais tu te rappelles, on avait parlé avec un propriétaire d'entreprise qui s'était fait défoncer, puis les voleurs étaient semis parce qu'ils avaient laissé de l'ADN partout. Ils avaient oublié leur casquette, leur ci, leur ça. Mais ce sont des interventions qui ont mené à l'arrestation de deux hommes. Il y en a un qui a 38 ans, l'autre 42 ans, en lien avec, bien sûr, des infractions en matière de trafic de stupéfiants. Grosse saisie. Puis le premier s'appelle Carl Gauthier. Lui est comparu hier au Palais de justice de Québec. Puis le deuxième a été libéré sous promesse de comparaître. Mais énorme travail de la part des policiers. Moi, à chaque fois, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est de me dire, OK, tout ça, si tu trouvais sur le territoire, ça veut dire qu'il y a du consommateur, là.
Ben,
pour en avoir autant.
Il y a du consommateur.
Non, du consommateur, là.
Puis il y a, tu sais, ça, c'est deux gars qui ont été arrêtés, là.
Deux gars. Avec autant de stock.
Imaginez
c'est
à
machine,
quel point, en général, dans la vie, il y en a qui ne se sont pas fait pogner encore puis qui ont probablement autant de stock, sinon plus.
Ça me donne des frissons, honnêtement. Mais bon, très heureuse de voir que les policiers travaillent fort. Là, on parle de crime organisé.
Tu vas me parler de mafia?
Bien, étrangement, c'est très lourd ce qui a été dénoncé ici à la mairie de Québec. Là. Pas par le maire de Québec, ni envers le maire de Québec. Ça se passe dans les partis d'opposition, ceux qui se présentent pour être maire à la suite des choses et
ça,
des élections.
Ça n'a pas de maudit bon sens.
C'est Claude Villeneuve qui a dénoncé de l'intimidation de la part de Sam Ahmad. Ce sont des propos de Claude Villeneuve. Il dit qu'à deux reprises, Sam Ahmad, donc le candidat à la mairie de Québec, lui aurait dit « Fais attention à tes critiques contre moi parce que t'as deux belles petites filles. »
Puis pour moi, honnêtement, puis je ne défends vraiment, mais vraiment pas les propos et je tiens à être très, très clair là-dessus. Je pense que c'est juste une blague de très, très, très mauvais goût de Sam Ahmad. Tu sais, je suis persuadé qu'il y avait zéro mauvaise intention et je réitère, je ne défends pas les propos. Mais come on! Tu sais, c'est comme une couche de plus à toutes les erreurs de Sam Ahmad depuis le début.
J'espère.
Ça a comme pas de sens.
Si c'est une blague, j'espère pas que Claude Villeneuve joue là-dessus parce que là, je trouverais ça bas. Au lieu de dire « Hey, tes jokes, là, sérieusement, sont mauvaises, arrête ça.
Ouais. »
De gérer ça comme ça. S'il a réellement peur, je comprends qu'il en fasse un point de presse puis qu'il en parle ce matin, mais j'aurais plus compris qu'il s'adresse aux policiers. Là, il a été questionné au sujet de l'intimidation dont aurait usé l'ancien député libéral contre lui. Puis, il a dit que c'est arrivé, bon, deux fois, dont la première fois, le 2 avril, c'était lors de lancement de la biographie de Régis Labeaume, ouais. Là, c'était au Diamant. Puis la deuxième fois, c'était à l'occasion d'une soirée caritative.
C'est sûr de le répéter à deux événements différents. Moi, que sa maman ne se rappelait pas qu'il avait déjà fait sa joke, là. Mais c'est particulier.
Mais il n'y aurait pas eu de témoin dans aucune des ça. Occasions.
Là, sa maman devait réagir à ça. Là. Il y avait un point de presse à 11h, fait que c'est clair qu'il a été questionné là-dessus ou il le sera dans les prochaines minutes. Il y a deux réponses possibles pour sa maman. Soit il dit « Claude Villeneuve est un menteur, j'ai jamais dit ça. » Je vois pas pourquoi Claude Villeneuve inventerait ça, là.
Soit Claude Villeneuve, il dit qu'il a ri au visage, ben, qu'il a dit que c'était ridicule, qu'il a haussé les épaules, qu'il a pris ça comme un commentaire faible et effrayé d'un monsieur qui sent que les choses se dérobent sous ses pieds. C'est ça, ce sont ses propos à Claude Villeneuve.
Fait que justement, soit sa mamad admet son erreur puis dit « Hey, j'ai fait une joke inacceptable à Claude Villeneuve et je m'en excuse. » Il y a deux options, là. C'est soit il dit « Claude Villeneuve est un menteur, j'ai jamais dit ça », soit il dit « Je m'excuse, j'ai fait une joke inacceptable, je le referai pas, ça n'a pas de bon sens. » Ou il y a la troisième option qui, ce qui est complètement ridicule, là, puis c'est de réagir en riant, en disant « Mais voyons, Claude, c'est juste une joke. » Pour moi, si tu admets que c'est une joke, faut que tu t'excuses, puis faut que tu admettes que c'est complètement ridicule.
Écoute, on n'est pas stratège en communication, surtout pas au niveau de la politique, mais il y a des gens au 88-971-101 qui disent « Ben ça pourrait jouer sur mon vote si ça s'avère vrai. » Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous le voyez comme du rififi bas de gamme d'hôtel de ville, là, parce qu'on sait qu'on est dans une série des feux de l'amour, honnêtement, là, depuis plus de deux ans, là, du côté de la mairie. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait de la politique maintenant? Puis je te dis, les commentaires, ils fusent là, au 88-971-101 ou encore sur Twitch. Entre autres, quelqu'un qui dit « Désolé, mais ça peut pas être une joke, ça fait aucun sens. » Quelqu'un d'autre qui dit « C'est prouvé, Ahmad perd mon vote. » Ça réagit, là.
Je suis curieux, 88-971-101 par texto. Est-ce que ce genre de commentaire-là de Sam Ahmad peut influencer votre vote? Si vous alliez voter pour Sam Ahmad ou vous y pensiez, de savoir que ça aurait été dit, est-ce que ça peut influencer votre vote, oui ou non? J'ai hâte de voir les réponses, parce que pour l'instant, c'est sûr que ça paraît vraiment pas bien pour sa maman, que ce soit une joke, puis qu'il le dise, puis c'est une joke, puis qu'il s'excuse, ou ça paraît tellement mal.
Je vais t'amener en Californie. Avant de te parler de ma nouvelle addiction Facebook, okay, je vais te parler d'un cas assez troublant dans le monde des stars. Je ne sais pas si tu connais le gars, le chanteur qui s'appelle David. Il écrit D4VD.
Ben oui, je l'ai vu en show à Oshaga il y a deux ans.
Il commençait vraiment à être très, très populaire. On parle de 3 millions d'écoutes mensuelles. C'est énorme. En fait, on peut peut-être aller chercher quelques hits de cet homme-là. Et là, il se retrouve pas dans l'eau chaude, dans l'eau bouillante, puis je pourrais même dire dans le drano, parce qu'il y a une adolescente qui a été retrouvée dans son coffre de voiture. Le coffre de voiture de David qui a été identifié. Adolescente retrouvée morte.
La toune qui s'appelle ironiquement là, Romantic Homicide. Ça ressemble à ça.
Céleste Rivas, elle a 15 ans. Elle était disparue aux alentours du lac Elsinore en Californie en 2024. Puis elle avait 13 ans à ce moment-là. Puis son corps a été retrouvé mutilé la semaine dernière dans le coffre d'une Tesla. C'était dans une fourrière à Hollywood Hills. La voiture qui était enregistrée au nom du chanteur de 20 ans. C'est David Anthony Burke, son vrai nom. Elle avait un tatouage sur l'index là, qui disait « Chut ». C'est un peu comme celui de David. Là, et il y a plein d'autres stars qui l'ont, là, Rihanna, Lindsay, Lohan et tout ça. Et là, la mère de la défunte a dit qu'elle avait à ce moment-là un petit ami nommé David. Le corps de l'adolescente a été retrouvé, comme je vous disais, dans le coffre. Mais on est encore en enquête à savoir, bon, qu'est-ce qui s'est passé? On le sait que son cadavre était enveloppé dans du plastique. Puis, bon, en état de décomposition. Je m'excuse, mais ce sont les faits. Et c'est comme ça qu'on a réussi à aller plus loin dans cette enquête-là. Par contre, aucune arrestation a été effectuée en rapport avec cette découverte-là. David coopère avec les autorités, c'est ce qu'on dit. Il a été retiré d'une campagne publicitaire de Crocs et de Hollister dans les derniers jours.
Je sais pas, hein? Ça paraît pas bien. Peu importe ce qui arrive.
Ça paraît pas bien. L'affaire, c'est... était, tu sais, je comprends que son véhicule était enregistré. Est-ce que c'était réellement lui qui a fait ça? On peut pas y aller avec la corrélation directe. Était-tu volé? Est-ce que son véhicule avait été saisi? Est-ce que c'était son véhicule qui était à mauvaise place au mauvais moment? Ou vraiment, chanteur des pop, c'est important et que c'est le présumé tueur? Écoute, on n'est pas là-dedans, mais clairement, on peut se poser plein de questions. Puis il est actuellement en tournée. Tu l'as vu à Oshaga, puis il était justement à travers le monde pour son spectacle.
Et en terminant, Pascal, en deux minutes, Tu voulais absolument me parler de ta nouvelle addiction réseaux sociaux?
Hey, la page Catalogue Québec. Oui. Okay? Et là, je vais aller chercher toutes les nostalgiques de ce monde. Je vais aller chercher toutes les générations aussi. Si je vous parle de Woolco, de Sears, de Zellers, je vous parle des anciennes publicités télévisuelles que vous avez trippées, les jingles, les choses qu'on vendait en 1974 chez Sears, là, où on voit trois belles madames super vannées avec leur robe, puis on dit super achat en jersey pratique pour vos beaux jours pour 10,99. Écoute, on retourne dans une ère marketing qu'on a oubliée puis qui est vraiment comique. Catalogue Québec. Vous allez pouvoir avoir des pubs de partout et c'est un gars d'ici qui travaille très fort pour aller chercher ces archives-là. Il se réfère à des vieilles émissions enregistrées sur des VHS. Il recherche dans les banques d'archives. Il recherche un peu partout. Tu vois un peu comment ça coûtait dans le temps. Le look aussi du temps. C'est vraiment le fun de voir qu'ils récidivent aussi avec des circulaires d'épicerie. On vendait ça combien? Puis maintenant, on vend ça combien? Le gars fait vraiment une recherche parce que parfois, il va prendre, par exemple, un vieux circulaire Provigo, puis il va aller comparer maintenant Maxi Loblaws, comment ça se vend. Je le trouve exceptionnel. Allez voir ça. Catalogue Québec, ça vaut le détour. Vous allez peut-être devenir un peu accro.
Merci beaucoup, Pascal.
Un plaisir.
Amateur de rock, je vous garde. Préparez le 418-971-1011 par texto. Live et la tournée Like a Rolling Thunder qui va s'arrêter au Centre Vidéotron le 11 mars 2026. Live avec Big Wreck, invité spécial de Damn Truth. Trois décennies, une soirée, des succès à ne pas manquer. Toute la semaine à Boulevard, on vous fait tirer des paires de billets et vous pourrez remporter la vôtre drette là. Les billets qui sont en vente d'ailleurs dès demain 10h sur gestev.com et ticketmaster.ca. Live avec Big Wreck au Centre Vidéotron, présentation Live Nation. Et Gestev, tout ce que vous avez à m'écrire drette là au 418-971-1021, c'est live avec votre nom complet et vous pourriez gagner votre paire de billets pour live avec Big Wreck et The Damn Truth au Centre Vidéotron le 11 mars prochain. Je fais un gagnant dans les prochaines secondes. Le temps de vous dire un gros ciao bye. Jeff Fortin s'en vient avec Pascal, avec Antonine Iaccarini. Puis nous, on se dit à demain 6h pour Marceau le matin et 10h pour le point de max. Salut là!